Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ces matchs-là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique,
ça va être vite fait. Les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là, jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs, bien sûr, comme tous les soirs de la semaine. L'After continue avec vous pendant toute cette période sans football, 7 jours sur 7, sur RMC, bien sûr, à la radio, l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Ils sont en radio-travail, toujours confinés pour encore 2h, 1h58, Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Et Lionel Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'événement, les gars, ce soir dans l'After, c'est le retour des chapeaux. Les chapeaux des latéraux ce soir.
Retour. Retour.
Bah, oui, mais c'est une fois par semaine, les chapeaux.
Oui, voilà, c'est pas le retour. Continue.
Retour, parce qu'il y a des affaires entre les deux.
Continue.
On continue. Alors, les latéraux, vous connaissez le principe. Enfin, si vous ne connaissez pas le principe, je vous le rappelle, depuis plusieurs semaines, tous les dimanches soirs, l'After classe les meilleurs latéraux mondiaux par chapeau. On a fait avancer les défenseurs centraux, milieu de terrain, attaquant. Du premier au quatrième chapeau, ce sera après 23h. On vous attend au 32-16 pour débattre avec nous. Les grandes dames seront là. L'actu du jour, évidemment. Et puis, dans quelques secondes, débat autour de la volonté de l'UNFP, le syndicat des footballeurs qui veut imposer ses conditions pour l'avenir du foot. On parlera également d'Antoine Comboiré, qui appelle à la grève pour une Ligue 1 à 22. Et puis, à 22h45, Julien Laurence sera là, car une partie de la suite de la première ligue, de la saison de première ligue, se joue, s'est jouée ces dernières heures et se jouera demain. Il va tout nous raconter, Julien, bien sûr, tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets, le hashtag RMC Live. Direct Studio sur nos applis RMC, RMC Sport, applis évidemment qui vous permettent de podcaster l'after, d'écouter la radio en direct, mais aussi d'envoyer vos messages via Direct Studio en appuyant sur la petite radio en haut à droite de l'appli. Lionel, Pierre, Daniel, bah ça y est là, demain c'est la libération, non?
Ouais, tout va être relatif quand même, hein. Faudra pas faire le...
C'est vrai.
Ah bah c'est quand même, tout est relatif, c'est quand même un pas important, oh.
Oui, c'est un pas
déjà,
important.
Déjà, t'es pas obligé d'avoir l'attestation quand tu sors faire tes courses. Tu peux quand même aller te balader tranquillement.
On est bien d'accord, mais quand je même, pense c'est qu'il énorme, faudra continuer à être raisonnable et responsable et ça, de ne pas partir dans tous les sens. Et... ouais, mais Daniel, tu connais les gens. Je pense qu'on va avoir certaines situations très très vite, dès demain matin, de gens irresponsables qui vont recommencer à faire des choses qu'il ne faut pas faire.
Toi, t'es pas infirmier, médecin, policier.
Vous avez vos masques, les autres.
Déjà, occupons-nous de nous-mêmes.
Pierre, t'as tes masques, Pierre?
Oui, moi j'ai trouvé des masques, ouais, j'ai acheté des masques pour la famille, pour moi, ouais, effectivement.
Ah non, ça fait un petit moment que je sors avec,
de toute manière quand je sors.
Ah, Lionel, je sens qu'il a le masque fait maison.
Ah bah ouais, j'ai fait travailler mon abeille.
Moi
je vous rassure, demain,
avec des rennes comme pour les chevaux derrière.
Moi j'avoue que vu que maintenant ça va devenir un truc un peu nouvel accessoire de mode, j'aimerais bien en trouver un peu stylé. Un bleu marine ou un noir en tissu.
Voilà, j'ai fait un noir, moi.
Un beau truc, j'aimerais bien avoir.
T'as pas un masque à JA, toi?
Ah ben non. Non, et en plus, moi, je vous rassure, demain, je serai pas dans le métro à Auxerre.
Ulsport, ils t'ont pas fait un masque à JA.
Moi, j'ai un gars sur Twitter, je le remercie d'ailleurs, je lui ai pas répondu encore, il faut que je le fasse, qui m'a proposé des masques PSG, effectivement.
C'est vrai?
Ouais.
J'en ai vu un l'autre fois.
J'ai pas répondu encore.
J'en ai vu un l'autre fois qui était fait par une supportrice, je crois, de l'OM.
Ah ouais, c'est vrai que ça se développe pas mal. Nantes aussi a fait les masques FC Nantes.
Bizarrement, personne ne m'en a proposé.
Mais ça va devenir un nouvel accessoire.
Ben voilà, c'est ça. Les produits dérivés s'adaptent. Donc si vous avez des photos de vos masques, envoyez-nous ça. Je sais pas. Moi, j'ai vu un masque Racing Club de Strasbourg aussi, mais je crois que c'était du fait maison, ça. Alors, on y va les gars pour l'actu du jour. Actu du jour avec des coups de gueule et des prises de position de certaines personnalités du foot et de certaines instances. Alors déjà, épisode lyonnais du jour, hein, parce que tous les jours il y en a un. Hier Jean-Michel là s'est exprimé. Aujourd'hui, hop, un petit communiqué pour une nouvelle fois relancer la machine. Lyon aujourd'hui appelle une nouvelle fois à faire marche arrière. L'Olympique lyonnais, dans un communiqué, dit qu'il faut faire marche arrière pour éviter au championnat de France une immense déroute. Voilà.
Mais le problème, c'est qu'on en a déjà tellement débattu que. C'est pas de parler de l'épisode supplémentaire chaque jour parce que. Encore une fois, moi, je veux bien, je serai le premier à vouloir qu'on revienne en arrière ou qu'on réétudie la position. Mais le problème, c'est que dans le communiqué, il faut qu'il soit plus précis. Il faut qu'il dise « j'appelle le gouvernement à revoir sa position ». Il peut pas, parce que là, la tendance, c'est que tout le monde est en train de fracasser la Ligue pour la décision. Mais la Ligue, elle a toujours travaillé avant que la décision du 28 avril ne tombe pour une reprise. Elle a toujours voulu Didier Quillot, il n'a fait que travailler pour la reprise. C'est le gouvernement qui, à un moment, a décidé de stopper ça. Donc, que les mecs qui se plaignent disent « Nous appelons le gouvernement à revenir et la ministre des Sports à revenir sur leur décision. » Qu'ils ne s'en prennent pas à la Ligue, puisque la Ligue n'y est pour rien. C'est ça que je ne comprends pas, moi, dans toutes ces communications-là.
Bah, parce que,
en fait, vous êtes d'accord ou pas ?
Non, puis il faudrait peut-être qu'une fois de plus, tous les clubs parlent d'une seule et même voix, se réunissent.
Mais ça, c'est chapitre 2. Mais chapitre 1, que les mecs, qui se plaignent incriminent les bonnes personnes. Il faut que les mecs incriminent les bonnes personnes, pas les mauvaises.
Tu fais bien de dire ça, Pierre, puisque Caiazzo, aujourd'hui, lui aussi s'est exprimé pour remettre Jean-Michel Aulas à sa place, enfin, si tant est que Bernard Caiazzo puisse le faire. Hein. Il a dit, Caiazzo lui a dit, ah bon,
il a dit qu'il voulait plus jouer jusqu'à janvier, lui.
Non mais lui, il a dit...
Il y a une semaine,
il a dit, jusqu'à nouvel ordre, Jean-Michel Aulas n'est pas Premier ministre.
Ouais, bon bah voilà. Ça, il a raison de dire que c'est le gouvernement qui a pris la décision.
Et il dit, bon, puis la messe est dite, maintenant il faut l'accepter, voilà.
Ah bah voilà.
Il parle au nom de son club et non de tout le football français.
Non mais Caiazzo fait exactement la même chose.
Non mais eux, Saint-Etienne, ils veulent plus jouer au football.
Non mais t'as raison Lionel.
Entre Romélier qui veut faire forfait sur la Coupe de France, KSE qui dit je sais même pas si on pourra rejouer en 2020. Donc là, ils veulent pas rejouer.
Attends Lionel.
Ceci dit Daniel, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pour ne pas rejouer. Enfin pas jusqu'en janvier comme Romélier ou Caiazzo, je sais plus. Pour ne pas rejouer la fin de saison et pour reprendre la saison prochaine.
Moi j'ai l'impression que les clubs se sont tous fait une raison aussi là.
Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup.
On va y venir avec.
Ils se sont fait une raison. Et là, dorénavant, ils s'en foutent. Et il y a énormément de présidents de clubs, là, comme Dijon, machin, qui de toute façon, au final, n'ont rien à cirer.
Bien évidemment.
Ils s'en foutent même de l'argent qui a été perdu. Il y en a pas tant que ça qui a été perdu pour eux. Faut dire la vérité. Parce que de toute façon, ils vont se rincer sur les prochains droits télé. Et puis de toute façon, ce sont des clubs qui vivotent, qui n'ont aucun objectif, aucune ambition. Au fond, je me suis aperçu que finalement, le foot ne s'intéresse pas grand monde. Même dans ces clubs-là, la vérité, c'est qu'ils s'en carrent un peu.
Bah, ils n'ont pas.
Je l'assume à 1000%.
C'est-à-dire, dans des détails.
J'assume à 1000%.
Ils n'ont pas défendu la.
Moi, je te dis qu'il y a plus de la moitié de nos clubs et de nos dirigeants qu'on n'ont rien à cirer. Ils vivotent.
Daniel.
Mais ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils vivotent. Ils gèrent leur club. L'oseille rentre. Ils payent leurs joueurs. Ils payent les employés. Il y a du monde qui vient au stade ou pas. De toute façon, quand tu vois les rentrées d'argent,
Je termine.
C'est pas la billetterie, le marketing ou le machin qui leur apporte du blé. C'est droits télé, petit business de mercato. De toute façon, les comptes, ils tiennent la route. Franchement, il y a beaucoup de clubs avec les prochaines rentrées d'argent des droits télé qui vont s'y retrouver. Personne n'était prêt à reprendre et n'avait envie de se battre pour ça. Je m'en suis aperçu avec le temps. La plupart, c'est comme je l'avais dit.
C'est surtout le timing.
Au moment de la disparition de la Coupe de la Ligue, des dirigeants du foot français, au fond, n'en ont rien à cirer du foot. Et j'assume à 1000% ce que je dis.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense surtout que la grande majorité des dirigeants, en fait, surtout, se sont dit, de toute façon, c'est pas nous. À notre niveau, que ce soit à Dijon, à Brest, à Strasbourg ou ailleurs, qui allons avoir le final cut.
Donc ils se battent pas et je te dis qu'ils s'encarrent.
Donc on va se plier à la décision collective. Voilà, il y a la décision du gouvernement.
Je te dis en plus que
non, mais surtout ils n'avaient pas intérêt à prendre position au moment où ils devaient le prendre. Et donc maintenant, moi, ce qui m'emmerde, c'est d'entendre Bernard Caiazzo maintenant, après coup, ouvrir sa bouche comme d'autres en ayant subi les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile, parce que je ne comprends vraiment pas. Il fallait l'ouvrir avant que anticiper le coup que le gouvernement pouvait justement arrêter ce championnat. Mais il y a t'en as 80% j'ai entendu personne.
Lionel, est-ce que tu as entendu des présidents importants comme Nasser Al Khelaifi, comme à Monaco, à Lyon, au début c'était très confus, c'est que maintenant qu'il y a une vraie prise de position de sa part, est-ce que tu as entendu des gens se prononcer clairement, on veut faire ci,
je suis d'accord avec toi.
Donc
ils l'ont pas fait
pour des raisons qui sont liées au contexte culturel et socioculturel français qui est que le foot doit toujours fermer sa gueule parce qu'il est mal vu et parce que de toute façon c'est indécent dès qu'un président parle parce que ça ramène tout le temps à une condition économique. Donc ils ont tous fermé leur gueule et je te dis que par ailleurs, pour ce qui est du reste de ce que j'appelle les petits clubs, non seulement il y a en plus ce blocage culturel inhérent au foot en France et en plus parce que de toute façon ils font de la petite gestion de leur club que de toute façon ils n'en ont pas plus à cirer que ça du foot et de la passion que ça draine, parce qu'en plus, dans ces clubs-là, ça en draine pas des masses, et que donc, au final, tout le monde s'est rangé, s'est mis dans son jardin,
ce sont
s'est
quand
posé
même
le cul
des
sur la terrasse, et ils ont rien à carrer.
Un peu dur,
moi, je te dis qu'ils ont rien à carrer,
je suis pas d'accord, rien à carrer, je suis pas d'accord, Daniel, t'es un petit peu dur.
Va passer une semaine à Dijon avec eux, puis tu verras.
Moi, je te dis, à Dijon spécialement, ce sont quand même des entreprises.
Non,
je te dis qu'ils s'en carrent.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Eh ben, moi, je te dis que oui.
Au fond,
ça l'emmerde pas. C'est pas vital.
Moi, je pense que t'as tort.
C'est pas vital. Le foot, c'est pas une passion pour ces gens-là.
C'est surtout, messieurs, si je peux me permettre.
Oui, vas-y, Pierre.
Non, c'est surtout, messieurs, si je peux me permettre, il faut qu'on fasse la différence entre ce qu'avaient à gagner des clubs comme Paris, Lyon, Marseille,
en plus.
Etc., à reprendre, et ce qu'avaient à gagner, voire à perdre, les clubs effectivement plus petits qui avaient quasiment plus de droits télé encaissés. Je vous parle même pas des clubs
de
Ligue 1, on en parle même pas. Voilà. Ça leur coûtait de l'argent quasiment de reprendre le
championnat. Donc il y avait pas de raison d'aller penser à rejouer ou quoi. Voilà, ils s'en foutent.
Voilà. Alors après, par contre, là où je te, c'est pas qu'ils s'en cachent, c'est qu'à un moment donné, quand on te dit il y a des risques, il faut faire des protocoles de malade pour reprendre, ça va être une mise en place de fou pour reprendre, et ça va te coûter de l'argent. Et en plus t'es sauvé en Ligue 1, t'as plus rien à jouer. Ils ont vite fait le choix.
Et donc on s'en carre encore.
Mais
si dans le bas du classement t'en as qui crèvent et qui peuvent pas se défendre, ils en ont rien à cirer. Chacun a fait ses petits intérêts.
C'est sûr qu'il y en a deux. Je dirais même qu'un, parce que Toulouse, ils étaient condamnés. Mais y en a au moins un effectivement qui a envie de se battre encore parce que eux avaient quelque chose à jouer. Ouais, effectivement.
C'est même pas qu'ils ont fait le choix de se taire, c'est-à-dire que en se taisant, ils ont laissé le choix à une autorité supérieure de dire on arrête, parce qu'ils savaient que ça allait se passer comme ça.
Oui, ils ont laissé faire.
Bien sûr, c'est surtout ça.
J'en reviens à Cagliazzo.
Ils ont dégagé en touche.
J'en reviens à Cagliazzo parce qu'il en a profité pour mettre son petit taquet habituel à la Ligue. Hein. Il dit attendez, moi je dis ça, c'est pas un problème de personne. Didier, Nathalie sont de bonnes personnes. Bon, c'est quand même son syndicat qui a fait en sorte qu'ils aient leur salaire de baisse de 30% un peu dans leur dos, mais bon. Mmh. Il dit mais nous souhaitons le retour à une gouvernance avec une seule personne forte, comme l'a fait avec Noël Le Graët.
Bon, de toute
c'est
façon.
Limite s'il n'a pas dit c'est moi les amis.
Moi-même. Si vous voulez voter pour moi-même.
De toute façon, il est clair aujourd'hui qu'il y a un front qui est en train de monter contre la Ligue et contre le duo qui est à la présidence de la Ligue en ce moment, le duo Bois de la Tour-Quillot. Il y a énormément de présidents qui veulent passer à autre chose. Ce qui, de mon point de vue, est assez injuste, vu que je pense que ce duo a bien travaillé.
Je suis d'accord avec toi.
Mais on m'a dit qu'ils ne s'entendaient pas du tout.
Mais c'est faux, c'est faux.
Au début, ça a été dur, mais
déjà,
au final.
Ils sont pas sur les mêmes questions, déjà.
Voilà, déjà, et au final, ils s'en sont très bien sortis.
Ah oui.
Et après, que ce soit très difficile de travailler dans ce rôle-là et dans ce poste-là par rapport à la cacophonie qu'il y a face à eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, de toute façon, énormément de présidents veulent leur peau et vont tout faire pour l'avoir lors des prochaines élections qui auront lieu en novembre.
Il y a des présidents de clubs qui considèrent, et qui le disent très clairement, qui considèrent qu'en fait, les gens de Ligue sont leurs obligés, quoi.
Les larbins, ouais.
Voilà.
Ah, mais bien sûr. Mais ça, c'est déjà l'erreur majeure.
Nous, quoi.
Mais c'est l'erreur majeure, comme a expliqué Boucher l'autre soir, et il avait raison. C'est l'erreur majeure, au lieu de considérer qu'il faut lâcher un peu de ton pouvoir pour être représenté de façon forte et parler d'une seule voix, ce qui se fait dans les autres pays, nous, on préfère la dislocation du pouvoir à droite, à gauche. Et quand il y a une grande gueule qui peut un peu s'exprimer, elle s'exprime. Et pour le reste, c'est aussi pour ça que notre football va aussi mal.
Alors, une voix qu'on entend peu, que j'aimerais relayer, et qui en général est plutôt quelqu'un de posé, on l'a reçu ici dans l'after avec des bonnes idées, c'est Pierre Ferracci, qui est un chef d'entreprise à succès, qui est le président du Paris FC. Et lui, il prend un peu le contre-courant quand même, de tout ce qu'on dit depuis des semaines. Il dit, mais attendez, la cacophonie, en fait, c'est pas un problème. Moi, le problème, c'est pas que les uns et les autres donnent leurs avis, et surtout qu'en plus, il y a des avis qui sont tout à fait pertinents. Il dit, le problème, pour moi, c'est les décisions qui sont pas bonnes, dit Ferracci.
Et les décisions, c'est pas celles de la Ligue, les décisions.
Voilà. Et lui, il dit, maintenant, moi, je veux une Ligue 2 à 22, il dit Ferracci.
Ah,
dit,
voilà, ah, oui, ça, c'est la nouvelle tendance.
Oui, mais lui, il est pas concerné, il se maintient. Donc c'est même pas pour lui. Donc il mise là, il la joue mais collectif.
Comment il peut faire pour s'en prendre à la Ligue alors que c'est le gouvernement qui a décidé et qu'aucun président n'a fait pour que ce soit décidé autrement. Donc je suis désolé.
Bon, lui, il est pour la libre expression, on va dire, Ferracci.
Et le problème, c'est pas la libre expression, c'est la mauvaise expression.
32-16, hein, si vous voulez parler de tous ces sujets. Bon, voilà, ça c'était la petite affaire de nos présidents du jour. Hein. On aurait pu mettre notre jingle Make League Great Again.
Oublié,
j'ai même pas pensé, tiens.
Alors, parce qu'il n'y a plus rien à Great Again.
C'est
mettre Ligue 1 down again.
Non, c'est surtout Make League 1 start again.
Mon Dieu.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
To make America great again for all Americans.
C'est un provocateur, on sait très bien.
On va aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin.
Au revoir.
Excellente remarque de violonisme, sur Direct Studio qui nous dit « Cayazo ». Quand même le mec le plus mal placé pour parler des présidences à deux têtes, non?
Ah, c'est clair.
Oui, c'est clair.
Et donc le candidat,
c'est quand même fantastique. Le mec, il se pointe en te disant ouah, non mais la présidence à deux têtes, c'est pas normal, il faut un homme fort.
Non, mais franchement. C'est l'hôpital qui se lâche.
Donc, comme quoi, il doit pas bien le vivre.
Pour la présidence de la Ligue, sachez que le candidat qui veut y aller et qui est porté par pas mal de monde, c'est Michel Denisot. Voilà, c'est la petite coqueluche du moment.
Et Denisot, tous les jours, il va mettre les mains dans le cambouis comme le fait Kyo.
À
aller faire des rendez-vous, à partir aux États-Unis chercher les investisseurs, à mettre en place des stratégies marketing, à s'occuper des droits télé.
Elle va lui dire à lui, c'est pas moi qui peux le dire.
Tu peux très bien avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, de confiance à côté de toi, mais c'est toi qui dirige.
Nous, on voit le boulot que fait Didier Kyo.
Il a envie d'y aller.
Pourquoi pas?
Bon. Pourquoi pas? T'as raison. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à. Moi, bon, si c'est un poste dans les.
Mais il le fera peut-être pas lui, mais il le fera faire.
Michel Denisot, n'oublions jamais la phrase de Fabrice Lucchini à son sujet, c'est son vide qui fait son tout.
Il avait dit ça?
Oui, mais je pense qu'il avait raison. Mais bon, c'est un autre débat.
Ouais, c'est marrant parce que j'aurais pensé à d'autres personnes, moi, qu'à Denisot pour cette phrase.
Ah, ça. Non, c'est Lucchini qui disait ça de Denisot.
Oui, non, mais ça peut s'appliquer à d'autres.
Ah oui, mais en l'occurrence, non.
Dans quelques instants, l'UNFP qui veut redonner une place centrale aux footballeurs dans le football d'après. Et puis Antoine Comora qui veut faire grève. On en discute dans
l'after. C'est le copain, on va parler du copain. Ah, c'est dommage que Jérôme ne soit pas là. Parce que, quand on parle de Cast & Dutch, il faut que les deux soient là. Parce qu'il y a deux yeux, deux mains, deux larmes, deux Kleenex.
Pierre, reste calme.
Oh, tu vois, j'ai même pas rebondi. Je te laisse lancer
Daniel fait son Cyril Roll de bas étage, tu sais, quand il allait provoquer sur le terrain. Bon, bref, ne pas répondre. Allez, à tout de suite dans l'after.
Mais attends, il n'y a pas de provocation, là.
RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Daniel Riolo, avec Lionel Charbonnier, avec Pierre Ducrot ce soir. Alors, l'UNFP, donc, communique. C'était hier, hein, mais nous, on en parle aujourd'hui. Hier soir, l'After n'en a pas parlé d'ailleurs. L'UNFP, je cite, pose ses conditions dans la construction du football de demain. Alors, je dois admettre que j'ai lu dans le détail ce que l'UNFP veut, mais c'est assez flou, en fait.
Ah, ouais, merci.
D'accord.
Moi, j'ai rien compris. J'attendais la traduction de Pierre Ducrot, le secrétaire de l'UNFP. Moi, je ne comprends rien du tout.
Moi non plus, je n'ai pas compris.
Je ne comprends rien du tout. Le blabla de l'UNFP, je ne comprends rien.
Je vais quand même essayer.
Il n'y a pas grand-chose à comprendre.
Je vais quand même essayer. Donc, en fait, alors, deux grandes thématiques. Il dit, voilà, le joueur doit retrouver le centre du jeu.
Ah, ouais,
alors, voilà, il dit, on pense à intégrer les joueurs en réflexion uniquement lorsqu'il s'agit de déconstruire, mais jamais lorsqu'il s'agit de construire.
Je ne comprends pas.
On les exclut des tables de négociation, on les dévalorise, et on dévalorise alors l'essence même du football, dit l'UNFP. Et puis, alors, deuxième grande thématique.
Attends, ça veut dire quoi?
Attends, laisse-moi aller au bout. Deuxième grande thématique, le joueur doit pouvoir donner la pleine mesure de sa triple influence économique, politique et sociétale, car le joueur incarne l'ascenseur social, il est un modèle d'excellence, de sacrifice, de générosité, d'abnégation aux effets vertueux. Alors, en fait, c'est bon.
D'accord.
Ok.
Mais bon, en deux mots, c'est qu'ils veulent plus exister.
Oui, mais en fait, le problème, c'est que concrètement, il y a pas voilà.
Ça veut dire quoi en fait?
Il faudra des propositions très concrètes, quoi. Tu vois, je sais pas. Par exemple, être plus présent dans mettre des joueurs au conseil d'administration de la ligue. Enfin, je sais pas.
Tu mets pas de joueurs, tu mets l'UNFP. Tu peux pas mettre un joueur.
L'UNFP, ils sont déjà décideurs. Ce qu'il faudrait, c'est que l'UNFP représente qu'un.
Si tu peux, l'UNFP, t'as même pas un seul joueur du PSG, par exemple. Tu peux bien sûr mettre un joueur, mais enfin c'est pas le taf du joueur de. En plus, tu sais pas s'il serait représentatif. Ça serait un syndicat devant le syndicat, puisque le syndicat c'est le. C'est l'UNFP, c'est le syndicat des joueurs. Donc tu demandes à un joueur de venir en plus de l'UNFP.
Encore faudrait-il je vois pas l'utilité. Que des joueurs en activité. Et envie de le faire parce que c'est pas forcément évident. Moi, je sais pas, il y en a aucun aujourd'hui
vous compliquez
qui.
Les choses.
Koscielny, qui s'exprime aujourd'hui, je vais y venir, mais.
Koscielny, alors là, c'était fantastique.
Pierre d'abord.
Moi, je pense que vous compliquez les choses. Ce qui est mis en avant là, déjà, c'est pas imposer quelque chose, c'est justement proposer que la parole des joueurs soit entendue à chaque fois au même moment qu'on entend la parole des présidents ou la parole des éducateurs, enfin des entraîneurs.
Sauf qu'elle est beaucoup
plus. Pierrot, la parole des joueurs, c'est déjà lui. NFP.
Mais sauf que normalement. Là, surtout sur les sujets qui concernent la Ligue 1, qui concernent le foot, tous les sujets qui peuvent être abordés.
De quelle façon il s'exprime. Moi aussi, je suis pour qu'il s'exprime, mais de quelle façon ils vont le faire?
Ben tu sais, l'UNFP est quand même très représentatif de ce que des joueurs en France. Hein, le pourcentage d'adhérents à l'UNFP est quand même énorme.
On l'a jamais empêché de s'exprimer, Castendet, sur les sujets. Il veut que ce soit fait de façon
officielle. Il veut pas s'exprimer effectivement dans les journaux comme là il est obligé de le faire. Il voudrait peut-être qu'il y ait 2-3 joueurs qui soient élus par les autres joueurs et qui soient les représentants des joueurs dans ces réunions là. Voilà, je pense que c'est aussi simple.
Mais ça c'est concret, tu vois, son avis. Au moins là tu donnes une proposition. Ça ce que tu fais.
Ouais, mais là toi tu donnes une proposition
parce qu'ils sont au début. Je pense que
lui c'est pas. Il dit pas ça.
Ils sont au début. J'ai le décodeur. Mais ils sont au début. Ça c'est assez facile à proposer après derrière. Je pense que c'est d'abord une façon d'exprimer leur souhait ou ce qu'ils imaginent. Après derrière concrètement pour le mettre en place, c'est à mon avis pas très difficile justement, pas très compliqué.
Est-ce qu'il propose ça justement parce qu'il a il a l'impression d'avoir une parole la parole des joueurs, mais de ne pas être entendu.
Je pense que très souvent ils sont obligés de parler, mais de façon effectivement officieuse, enfin ou en tout cas par voie de presse ou de faire passer des messages, mais que typiquement dans les prises de décision, je pense qu'ils sont pas entendus, effectivement.
Après voilà, c'est un peu géopolitique.
Ça paraît pas fou finalement dans toutes les décisions qui sont prises dans le football, il y ait des représentants des joueurs, acteurs.
C'est comme si tu demandais à un syndicat de la vie de tous les jours, je vais pas en citer, d'amener des salariés pour parler à leur place. À quoi sert le syndicat?
Syndicat, par exemple, d'une entreprise, il est représenté dans les instances de l'entreprise. Là, par exemple, à la Ligue, quand tu vois le bureau de la Ligue, c'est que des présidents de club. Tu vois, le bureau de la Ligue, c'est que des présidents de club. L'Assemblée générale de la Ligue, il y a les familles. Donc,
et aller à l'encontre de la vie de son président.
Si je peux me permettre, tu sais quoi, Daniel, je pense que le privilège, ou enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais le rapport de force salarié-employeur dans le football n'est pas le même que dans les entreprises normales, classiques. C'est sûrement un des privilèges du footballeur. Malheureusement, pour les salariés d'entreprises plus classique, et je pense qu'effectivement si 2 ou 3 joueurs étaient choisis, alors effectivement il faut que, là où je rejoins, je crois que c'est Gilbert qui l'a évoqué, est-ce qu'il y a des joueurs qui auront envie et qui auront les épaules pour le faire, ça c'est autre chose, parce qu'il faudra avoir les épaules et il faudra surtout avoir aussi ce qu'il faut dans la tronche pour pouvoir le faire, je pense, mais si des joueurs peuvent parler non pas en leur nom devant leur président, mais au nom de tous les joueurs de Ligue 1, devant tous les présidents et la Ligue, je pense que ça peut avoir un réel effet.
Conseil d'administration de la Ligue aujourd'hui. Il y a les représentants des clubs de Ligue 1. Ils sont 8. Représentants des clubs de Ligue 2. Il y en a 2. Il y a le représentant de la Fédé, Michel Denisot. Représentant de Première Ligue, KSO, président de l'UCPF. Et il y a les représentants des joueurs, ils sont là, Pierre et Kirsten Dutch.
Tu sais,
représentant des éducateurs, 2. Collège des indépendants. Tu savais que l'Orléanais, il était au Collège des Indépendants?
Bien sûr, l'autre jour j'ai donné de la composition quand on a dit qu'il allait voter. Mais en fait, les décisions à la Ligue, elles se prennent surtout dans le bureau restreint qui est composé de 10 personnes, et tu n'as pas tous ces gens-là, t'as 4-5 présidents.
Il y a un conseil d'administration,
et tout est préparé,
il est là.
En amont par le bureau, et ensuite validé par le conseil d'administration.
Mais il y a quand même...
Et là, reconnaît que si l'UNFP représente une
demande
voix,
à placer plus de joueurs,
face à 15 présidents, c'est pas grand-chose quand même.
Oui, mais tu peux pas dire qu'ils sont pas représentés.
Moi je trouve pas ça scandaleux que les joueurs et leur
moi, pour moi c'est pas leur place.
Ah, mais moi,
pour moi c'est pas leur place.
Je trouve que
c'est
mais il faut moi, du trouve, concret, des propositions concrètes.
Je trouve que c'est une façon, parce que là c'est on comprend rien. Au contraire.
Là, on comprend rien.
Mais... Alors, je vais donner un exemple dans le rugby parce que bon, moi, j'ai fait plusieurs années les émissions avec Serge Simon, qui était le patron de Proval, c'est l'équivalent de l'UNFP à l'époque, avant de maintenant être vice-président de la Fédé, et le successeur de Serge, qui s'appelle Charlie Wachou, si je me souviens bien, était encore joueur quand il était président de Proval. C'est-à-dire que là, dans le rugby, il y avait un gars qui était encore joueur et président du syndicat. Donc, il y a un gars qui y allait. Dans le foot, on n'a jamais eu ça, en fait, finalement, les gars. Un gars, tu vois.
Ce qu'il faudrait, c'est que ça intéresse des mecs, surtout.
Et qui prennent la responsabilité de dire, bah, moi, je vais y aller, je vais représenter la filière, au nom des joueurs et tout. Alors, Koscielny et Mandanda sont exprimés aujourd'hui. Il y a un article dans le Figaro. Koscielny dit, cette période nous a permis à tous de prendre du recul, de réfléchir. Voilà, nous ne sommes pas des marchandises, dit Koscielny, on n'est pas non plus des super-héros. Notre voix compte, nous ne sommes pas des marionnettes et on peut faire changer les choses demain. Donc apparemment, il a envie, hein, Koscielny. C'est pas n'importe qui, Koscielny, il était capitaine de l'équipe de France. Voilà, bon, c'est un gars qui a la tête sur les épaules, qui est intelligent. Donc bon, il s'exprime. Mais maintenant, est-ce qu'il a envie d'aller plus loin? Il est plutôt en fin de carrière, Koscielny. Il peut peut-être représenter quelque chose.
Ça veut dire quoi?
Mais Kastendutch, c'est pas un ancien joueur?
Si, Kastendutch, c'est un ancien joueur.
Alors, c'est exactement la même chose. Alors, sauf qu'il est un petit peu plus jeune, mais je comprends pas.
Pierre aussi, c'est un ancien joueur, un peu plus vieux, mais ancien joueur aussi. Hein.
Oui, ouais, c'est-à-dire qu'on prend des joueurs
c'est prendre des joueurs qui sont encore en activité.
Oui, voilà. Moi, c'est ce que je comprends aussi.
Qui vont basculer et faire que ça.
Moi, ce que je comprends à travers ce communiqué de Kastendutch, c'est que je trouve que il doit penser que sa voix, la voix des joueurs, n'est jamais entendue. Moi, je vois que ça, parce que je vois pas comment et pourquoi ramener des joueurs alors que ces joueurs-là élisent un patron qui est un mec qui va les représenter, qui est leur syndicat, qui est en l'occurrence l'UNFP représenté par Kastendutch. Ils votent tous déjà pour que leur voix soit communiquée. Et on demande qui en est encore plus. Je comprends pas.
Après, il y a un déséquilibre au niveau des voix aussi. Je pense que c'est histoire de ramener un déséquilibre.
Je comprends pas.
Faut faire attention au conflit d'intérêts. Je vous donne un exemple. À la Fédé, au COMEX, le comité exécutif de la Fédé, je pense qu'elle y est toujours, la joueuse du PSG, rappelle-moi son nom, Pierre, défenseur central.
Laura Georges.
Bah, Laura Georges, quand tu es au comité exécutif de la Fédé, tu peux plus être en activité. Parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. D'ailleurs, Laura Georges, elle est partie jouer au Bayern Munich pour sa fin de carrière parce qu'elle pouvait pas être dans un club français.
Oui.
Parce que tu prends des décisions, bon, bah, arrivent des problématiques, tu vois, il peut y avoir des arbitrages.
Imagine un joueur qui va devoir parler au nom des joueurs contre son président.
Bah, comme des gens syndiqués dans des entreprises qui, à un moment donné,
donc tout ça doit être cadré juridiquement aussi.
Le rapport va pas être le même, Pierre, quand même, entre le président du club, le joueur de foot, l'éventuel transfert, le machin, parce que le côté je suis pas marchandise, quand ça les arrange, parce que quand il est l'objet d'un gros transfert avec un énorme salaire, ça lui plaît d'être une marchandise, Koscielny. Quand on va le chercher à Arsenal pour un salaire astronomique à Bordeaux, il est bien content. Donc bon.
Non, puis Daniel. On le voit tout simplement dans les entreprises. Il suffit qu'il y ait un patron qui voit un de ses salariés devenir le porte-parole d'un syndicat. Je peux te dire, il le voit pas le lendemain matin, il le voit pas du même œil. Hein. Ils se disent pas bonjour de la même manière. Donc quoi qu'il arrive, si c'est un joueur qui va en plus aller à côté de l'UNFP ou je sais pas trop comment ils veulent faire, ce mec-là, inévitablement, il va se faire mal voir par les présidents. Enfin, ça va être compliqué.
Grosso modo, au-delà de tout ça, il y a dans ces articles-là, c'est pour ça que quand je suis tombé sur cet article, c'était samedi, je crois, dans le Figaro, Mandanda, Koscielny, l'UNFP, Castaneda. Il y a cette tendance là depuis quelques semaines, j'en parle souvent, à ce que le monde doit forcément changer parce que quelque chose de terrible s'est passé, qu'on a tous traversé, comme s'il y avait des choses absolument horribles dans le monde d'avant, puisque visiblement les gens veulent que ça s'appelle comme ça, et dans le football qui forcément était horrible, où il y avait des choses affreuses, les mecs se sont tous réveillés là, ils veulent tous tout changer. Moi, je veux bien. Il va falloir encore une fois être un petit peu plus concret. Il va falloir me dire comment ils vont se mettre à refuser les gros salaires, les joueurs, parce que visiblement c'est là que le bas blesse. Moi, je comprends rien à tout ce discours. J'ai vraiment beaucoup de mal.
J'ai un message sur Direct Studio. On me dit ça me fait penser aux tribunes de Nicolas Hulot.
Ah bah ça, c'est une carrière. Voilà, mais c'est ça par exemple. Tribune de Nicolas Hulot, c'est extraordinaire de de naïveté.
Non, c'est pas le sujet
absolue.
De l'after,
mais bon,
c'est
pas... mais non, mais il y a dans ces propos-là, il n'y a que ça en ce moment. Tu n'as que de la mousse, tu as du brassage devant.
En Bretagne, tranquille.
Je trouve ça complètement dingue, ce qu'on entend sur le foot, sur. D'ailleurs, je propose que cette semaine, en dehors de ce que tu vas annoncer tout à l'heure qui va nous occuper dans la semaine qui vient, je te propose qu'on reçoive également quelqu'un qui est déjà venu ici, Luc Arondel, qui a écrit dans Les Échos un très bon article sur le soi-disant terrible monde d'avant du football. Je pense que ce sera intéressant qu'il nous donne son point de vue. C'est un économiste reconnu. Il va nous dire à quel point le
d'avant
n'était pas
plaisir.
Si terrible que ça.
J'en viens à Comboiré. Donc lui, Antoine Comboiré, dit ce matin dans l'équipe, il faut de la solidarité, moi j'aime pas l'injustice, il faut une Ligue 1 à 22. Alors, jeudi dernier, Daniel, tu te moquais de moi, oh, pourquoi tu ramènes ta Ligue 1 à 22? T'as bien vu que tout le monde en parle, la Ligue 1 à 22.
Mm-hmm. Oh, je vous signale que j'en ai parlé très très tôt et que, une fois de plus, il n'y a pas de bonne solution, mais là, pour moi, la moins mauvaise était effectivement celle-là, pour léser le moins de personnes.
Moi, je suis pas non plus tout à fait complètement opposé à tout ça. Le truc, c'est que maintenant, ça semble quand même un petit peu tard.
Oui,
et puis, le problème de Comboiré, c'est qu'il était entraîneur de Toulouse il y a encore quelques mois. Et son fils est le directeur administratif d'Amiens. Donc, du coup, ça semble un peu, comment dirais-je, ça prête à l'interprétation.
Non, mais ça, à la limite, je veux même pas lui taper dessus pour ça. Son idée.
Bon, après, c'est un gars sincère. Donc,
non, mais je pense pas.
Son idée peut se défendre. Encore
de
une
faire
fois.
Grève?
Non, la Ligue 1 à 22.
Non, à 22.
Ah bon?
Encore une fois, s'il veut mener, je te dis pas si c'est bien ou pas, moi, j'ai pas étudié le truc. Mais s'il en parle. S'il en parle, il faut qu'il dise clairement. Moi, j'en ai marre des mecs qui arrêtent pas de parler et qui concrétisent pas. Qui nous disent, bon, il l'a dit quand même, le calendrier a récupéré des dates.
Il te dit les droits de télé, ça, c'est pas dramatique vu l'augmentation. Ça
mais alors dans ce cas-là, voilà. il faut déjà qu'on
prévoie. Il te dit le calendrier, c'est possible.
Il y a 4 équipes qui vont descendre l'année prochaine.
Voilà. Il te dit juste pour un an, ça. Pour amortir le choc du coronavirus.
Il faut tout organiser dans ce cas-là.
Bon. Je fais une précision parce que je reçois des messages sur Direct Studio. On me dit, ouais, mais de toute façon, vous parlez de tout ça, c'est mort. Tout. Non, c'est pas mort, attention, c'est pas mort. C'est-à-dire que si demain, la Ligue, à la majorité, décide de voter, qu'il y a l'appui de la Fédération pour rechanger, pour faire une Ligue à 22, pour pourquoi pas dire, on veut tous reprendre, ce qui n'est pas la tendance, mais c'est possible. Je veux dire, Lyon et Jean-Michel Aulas, quand ils insistent, ils savent que légalement, c'est possible. Ouais, je le précise quand même. Hein.
Pour reprendre, non, par rapport au gouvernement,
ça semble dingue, mais c'est possible.
Pour la Ligue 1 à 22, oui, si les mecs se mobilisent tous, il doit y avoir peut-être un.
Il faut se réveiller.
Possible, mais bon.
Enfin, il aurait fallu se réveiller plus tôt déjà.
Bon, enfin voilà. Donc voilà les tendances du jour, les prises de parole du jour, diverses et variées. Alors, oui, une info quand même importante aussi qu'a donné Caiazzo sur le mercato. Alors il dit voilà, c'est le conseil d'administration de la Ligue qui décidera les dates du mercato. Et Caiazzo dit, c'est assez terrible en fait ce qu'il dit pour le foot français, mais bon c'est tellement vrai mais tellement terrible. Il dit nous, on est un pays vendeur, donc on doit caler nos dates sur les pays acheteurs. Donc on ne peut pas terminer avant ni après ces championnats-là. Or, comme les autres championnats vont a priori terminer le mercato début octobre, eh ben ça veut dire qu'on ne pourra pas démarrer nous début juin vu qu'il faut 12 semaines.
Il a raison.
Mais c'est terrible parce que tu te positionnes directement comme en fait le championnat où tout le monde vient se servir. Quoi.
Et c'est pas ce que je répète depuis des années. T'as besoin de KSO et de
Denis.
Parce que je te répète sans arrêt.
Non mais t'es gentil.
Je te dis tout le temps qu'on est juste un championnat boutique.
Bon,
on est juste une boutique.
Bah, écoute, tu remercieras.
Tu peux le prendre comme un championnat où il y a des.
Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que.
Oui, mais ça fait un peu. Non. Acter l'infériorité en fait. C'est ça qui est gênant.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas progresser. Puisque la priorité, ça n'est pas le jeu et la progression sportive des clubs, c'est la vente. C'est pour ça que notre niveau et notre jeu et notre spectacle proposé dans le championnat ne pourra pas progresser. Et pour ça que le supporter ne doit pas s'attendre à vivre une aventure avec son club, puisque le club lui a tourné le dos depuis longtemps.
Ouais, t'as l'Ajax qui fait ça. C'est qui est aussi un club vitrine.
On n'est pas là pour ça.
L'Ajax le fait, il le fait très bien, Daniel. Oui, nous,
on ne mettra jamais le jeu au centre des priorités. On est là simplement que pour vendre, Lionel.
C'est peut-être le football de demain, on ne sait pas.
Oui.
Avec tout ce qui se passe.
Ouais, mais à l'Ajax, c'est géré par des mecs d'Amsterdam. Dans le respect de la tradition et de la culture. D'ailleurs, à un moment, ils en étaient sortis, ils ont déraillé. Mais
alors là, tu dis
France,
un truc qui est hyper important.
En France, c'est-à-dire que tout ça, on a abandonné tout ça.
C'est une politique de club.
Oui.
C'est très important. C'est une politique de club. Dans le respect de la culture.
On a lâché tout ça, nous. C'est fini.
Les mecs qui reviennent faire du trading, la culture, moi, l'autre fois, j'en ai parlé, par exemple, pour Bordeaux, pour, et tu peux le mettre à tous les clubs, la culture, ils s'en battent les ropoplos. La culture club, ils s'en foutent complet. Ce qu'ils veulent, c'est vendre, acheter très peu et vendre très cher pour pouvoir, dès qu'ils ont fait leur truc, se barrer, revendre le club avec encore une plus-value.
C'est ce que je dis depuis des années.
Mais oui, mais moi, je le dis depuis tout le temps. On est un championnat vitrine.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas progresser.
Plus ni moins que ce que faisait. On copie vraiment très mal ce que faisaient très bien les Portugais. Et on n'est pas, on n'a pas un championnat beaucoup plus fort que le championnat des Portugais.
On n'a jamais eu la culture foot des clubs comme Porto.
C'est
Benfica,
ce que je dis. On le fait, on le copie très mal.
Et
les Portugais, c'est fait. Mais depuis, ils ont commencé il y a 15 ans en arrière. Hein.
Et quand tu vois en plus,
on n'arrive même pas à copier comme
s'il vous plaît. Revenons à Comboiré parce que Nicolas au 32-16 veut en parler. Nicolas, bonsoir. Salut Nicolas.
Bonsoir Nicolas. Déjà intervenir par rapport à l'histoire de l'UNFP. Où je pense que c'est logique que des joueurs soient présents et puissent se faire entendre. On a des très gros salaires et après on a des gens qui sont des gens de l'ombre, des porteurs d'eau, des porteurs de football. Voilà, et je pense notamment par exemple à Vikash Dorasso, qui ne sont pas forcément des stars mais qui peuvent avoir des points de vue intéressants et intelligents. Après, sur l'histoire de Comboiré,
on est d'accord, hein, moi j'aimerais bien aussi que les joueurs puissent s'exprimer et qu'ils le fassent librement, ce qui semble assez compliqué.
Après, il faut s'organiser. Voilà, après, il faut s'organiser. Sur Comboiré, moi, je voulais revenir surtout parce que Comboiré amène un sujet à Olas. À un moment donné, Olas, il a raté son pari en début de saison et il ne peut pas tout d'un coup remettre tout en question et vouloir tout faire changer. Il faut qu'il accepte aussi, à un moment donné, il est, si on prend une photographie de ce championnat, voilà, il nous explique que tous les championnats d'Europe ont repris. Pour l'instant, ce n'est pas vrai. Je crois que seuls les Allemands sont partis sur une reprise.
Ouais. Les autres, ça travaille, mais c'est pas encore rien de fixé encore.
Ouais, voilà.
Il y a déjà un match de repoussé.
En Allemagne, oui, en D2 allemande, oui.
Et en D2 allemande, il y a déjà un match de repoussé.
Exactement, avec Brest qui a 4 cas de Covid-19. Et voilà. Donc, après, sincèrement, 22 clubs, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Voilà, on prend à un moment donné.
Parce que t'as bien vu, les arguments d'Amiens. Ils te disent, nous, c'est dur économiquement. Il restait 30 points à prendre. Alors que là, on pourrait en fait faire un geste pour nous amortir le choc, quoi, en quelque sorte. C'est ça le message. Bon, Nicolas, merci en tout cas pour ton témoignage. J'aurais bien vu que toi, tu veux la parole des joueurs. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Reste à voir concrètement comment, en fait. C'est surtout ça. J'ai encore deux infos à vous donner avant qu'on aille en Angleterre. Vous dire que Ander Herrera a donné une interview à la radio Copé en Espagne. Et lui, il dit, moi, je soutiens Olas. Voilà, dit Herrera.
Dans le fait qu'il veut reprendre et revenir en arrière, il a raison.
Mais Maldini aussi l'a dit, il me semble.
Maldini aussi l'a dit. Mais moi, sur la dernière partie de son raisonnement, Olas, je le suis aussi. Je lui reproche tout ce qu'il a fait avant.
Le problème, c'est que c'est un retournement de veste. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de sons de cloche au fur et à mesure que le Covid avançait, que cette épidémie avançait, les vestes se retournaient et surtout pendant qu'il était en train de se mettre vraiment en marge de manœuvre et tout, que notre football devait déjà anticiper le truc. Pourquoi on a toujours, moi j'en reviens toujours au même, pourquoi on n'a pas anticipé ça? On a des grands chefs d'entreprise à la tête de nos clubs, est-ce qu'ils font la même chose dans leurs entreprises? Ça m'étonnerait.
Oui, effectivement. Mais comme on a dit depuis le début, il n'y a pas de voie commune, donc ça ne marche pas.
Mais voilà.
Dernière info importante. Vous savez que sur les réseaux sociaux à Marseille, depuis maintenant près d'une semaine, il y a une excitation générale autour de l'éventualité d'un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'entourage de McCourt a dit clairement à la Provence que c'était non, fake news. Héro avait déjà tenu le même discours, hein, donc il y a quelques jours et quelques semaines, à plusieurs reprises. Donc une nouvelle fois, donc là cette fois c'est par l'intermédiaire donc du propriétaire qu'on fait savoir que pas du tout, il n'y a pas du tout de... Alors après, hein, ce qui est vrai, le dimanche peut être affirmé le lundi ou le mardi, hein, c'est toujours la même chose dans le monde économique ou dans le monde du foot. Mais voilà, en tout cas, la déclaration du jour de l'entourage de McCourt, fake news concernant le rachat de l'OM par les Saoudiens. Dans quelques instants, on est de retour pour aller en Angleterre, car il s'est passé des choses aujourd'hui importantes en vue de la reprise de la Première Ligue. On fera un petit point sur les autres championnats aussi, bien sûr, en attendant les chapeaux qui arrivent à 23h, les latéraux, ce soir, au programme.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Pierre Ducrot, Lionel Charbonnier et Daniel Riolo. Alors, on va aller en Angleterre tout de suite, mais juste avant, je vous précise que cette semaine, nous allons avoir plusieurs dossiers liés à l'actualité des Girondins de Bordeaux, avec des révélations que l'After va vous faire. Ça commencera demain soir à 22h, demain soir et mardi soir au minimum, donc avec des révélations liées au fonctionnement des Girondins, à certains contrats. Donc ce sera demain, évidemment. Supporters bordelais, restez bien attentifs et vous pourrez tous
participer. Voilà, si les Bordelais doivent écouter un moment l'After, c'est maintenant. Ça va être gros dossier là.
Voilà, demain à 22h.
Ils finiront la semaine avec l'idée que tout le monde doit se barrer très vite.
Julien Laurence nous rejoint. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Pourquoi il arrive avant lui? Pourquoi il arrive avant les chapeaux lui?
Parce qu'il a une actu, là. Parce que Boris Johnson s'est exprimé et ça concerne indirectement la Première Ligue.
C'est ça. Sauf que malheureusement, on n'a pas appris grand-chose dans le discours du Premier ministre ce soir. Malheureusement, ça a été assez très confus, très flou.
Si, il a quand même donné une date pour le déconfinement.
Oui, alors le déconfinement commence demain d'ailleurs, hein, puisqu'il a dit que si vous ne pouvez pas travailler chez vous, allez au travail, en prenant l'exemple des gens qui travaillent dans le bâtiment ou dans la manutention. Mais c'est tout. Il a rien dit de plus. Donc on ne sait pas si par exemple les joueurs de foot qui peuvent pas travailler chez eux, est-ce qu'ils peuvent retourner travailler à l'entraînement? Est-ce que les dentistes pareil? Est-ce que c'est très flou, c'est pas beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant. Après, effectivement, tu as raison, début juin, certaines écoles devraient réouvrir, on devrait avoir aussi la deuxième vague du déconfinement, si tu veux. Mais en tout cas, en termes de football,
il a parlé d'une deuxième vague de déconfinement début juin.
Voilà, c'est ça. Donc à partir que des magasins et les écoles pourraient réouvrir pour certaines classes.
Donc après, envisager que le foot puisse faire quelque chose avant début juin, alors.
Voilà, ça c'est sûr. Alors après, de toute façon, la date de la Première Ligue, la date souhaitée par la Première Ligue, c'était le 12 juin, arrive. Donc on pourrait envisager un retour aux entraînements individualisés d'abord maintenant, là, très rapidement. Puis ensuite, peut-être collectif à la fin du mois de mai, début juin. Ils font deux semaines d'entraînement début juin jusqu'au 12. Et au 12, ils commencent à faire les matchs. Mais comme on l'expliquait l'autre jour, il y a quand même énormément de choses encore à régler. Beaucoup d'inquiétudes chez les joueurs, dans les clubs, chez les docteurs des clubs aussi. Beaucoup de questions en suspens sur les matchs sur terrain neutre, déjà, dont certains clubs sont contre. Demain, il y a une réunion très importante de la Première Ligue où les clubs vont voter par rapport à ce que leur proposa la Première Ligue. Je rappelle à tout le monde qu'il faut 14 votes sur les 20 clubs de Première Ligue pour que la motion passe, peu importe ce qu'est la motion, donc les matchs à huis clos. Bah
c'est bien, au moins c'est
exemple.
Clair ça, au moins c'est clair, c'est bien annoncé.
Ils anticipent.
Il y a beaucoup de questions, proposent. Comme tu dis, il y a énormément de questions qui sont encore en suspens, mais au moins on se les pose et de toute façon, ils vont trouver des réponses.
J'espère qu'ils trouveront des réponses. Alors, c'est pour ça que je pense que le 12 juin, pour moi, c'est très ambitieux parce qu'il y a tellement de questions encore en suspens, comme je disais, il n'y a pas encore de protocole médical qui est officiel entre guillemets, on va dire, comme on peut le trouver en Allemagne par exemple, un truc détaillé qui te dit exactement ce que les joueurs vont faire, quel test, à quel moment, quand arriver au stade, tout ça, ça n'existe pas encore ici en Angleterre, donc il y a tout ça à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que Boris Johnson aujourd'hui, en relaxant un petit peu le confinement, a sûrement aidé dans la direction que la Première Ligue veut prendre, ce qui est vers la reprise du football.
Bon, les nouveaux cas de Covid découverts à Brighton changeront rien, ou tu penses que ça peut influencer ou...
Alors, si, je pense que ça aurait forcément une petite influence sur la réunion de demain, où Brighton, qui déjà faisait partie des 6 clubs qui ne veulent pas pour l'instant reprendre la compétition à huis clos et sur terrain neutre. Donc rappelez-vous, hein, 14, il faut 14 oui pour que la motion passe. Si t'as déjà 6 des 20 clubs qui disent non, ça fait déjà 6. S'ils arrivent à convaincre un 7e, peu importe ce que va proposer la Première Ligue demain, mais ça passera pas, il faudra soit entériner ça, soit retravailler sur une structure possible, un plan possible. Mais Brighton ne veulent pas recommencer sous ces conditions-là, donc qu'ils aient 3 joueurs en plus, ça n'a fait que qu'amplifier leur désir de ne pas recommencer la Première Ligue sur la structure que la Première Ligue est en train de leur proposer. Donc je pense que ça peut effectivement alerter d'autres clubs, que d'autres clubs peut-être comme un Newcastle qui est un petit peu qui se pose des questions, Sheffield United qui se pose des questions aussi sur certains de ces joueurs qui ne veulent pas reprendre. Ça peut peut-être faire basculer effectivement un club d'un côté ou de l'autre. Ça va être vraiment chaud demain, et il y aura une autre réunion mercredi aussi. Parce que les joueurs n'ont pas encore, eux, été consultés. Et beaucoup de joueurs se plaignent sur le fait que personne, pour l'instant, ne leur a vraiment demandé leur avis. Et je pense que ça pourrait être le cas mercredi ou jeudi.
Ils ont pas Castendutch, tu veux qu'on leur prête Castendutch?
Je sais pas le niveau d'anglais de Sylvain Castendutch, mais
le patron, enfin l'équivalent de Castendutch en Angleterre, il paraît que c'est un personnage.
Ah oui, Gordon Taylor, oui. Alors déjà, c'est quelqu'un qui touche 3 millions d'euros par an.
Ah oui, parce qu'un salaire. Castendutch et Pia prennent 3 millions d'euros par an.
Pas Castendutch, non.
Je sais pas, en tout cas, je lui souhaite à Castendutch de prendre autant d'argent, mais Gordon Taylor, effectivement.
On se le souhaite à
nous,
déjà.
Oui, à tout le monde, d'ailleurs, hein. mais c'est vrai que Gordon Taylor, ça fait longtemps qu'il profite du système, qu'il a lui-même mis en place, puisqu'il est à la base du syndicat des joueurs ici en Angleterre. Très âgé, effectivement, en fait, et surtout veut pas laisser sa place.
Bah, Pia, à la tête de l'UNFP, il a plus de 80 ans, hein. Il est toujours actif.
Oui, bah, c'est pareil. Je pense que c'est la même graine. Et effectivement, Taylor a énormément milité depuis le début de la crise pour que les joueurs, un, n'acceptent pas les réductions de salaire offertes par leur club ou demandées par leur club ou proposées par leur club, sans avoir de son côté mis en place, que l'UNFP a mis en place par exemple pour quand même aider les clubs. Il a complètement été contre ça. Et puis c'est vrai que t'as pas l'impression qu'il est en train d'aider pour que la situation se régularise, ou en tout cas qu'on trouve un accord par-ci ou par-là. Pour l'instant, le syndicat des joueurs ici en Angleterre a été très offensif, mais dans le sens très très pro-joueur, et pas trop pour faire que l'ambiance soit un petit peu meilleure.
Ça fait polémique ou
Lui, ça fait déjà longtemps qu'il fait polémique, ouais. Lui, ça fait longtemps qu'il.
En Angleterre, on dit quoi?
Dans l'after en Angleterre, on dit que ça fait longtemps qu'il aurait dû dégager, qu'il doit encore dégager aujourd'hui, qu'il doit laisser la place à quelqu'un un plus jeune et avec des idées un peu plus avant-gardistes, parce que lui c'est quand même un peu old school, mais pour l'instant il est encore en place, il a encore beaucoup d'influence, malheureusement ou heureusement selon le côté où, sur lequel tu te places.
Alors, dans les infos du jour, dans les autres pays principaux de foot en Europe, sachez que on a assez peu parlé du Portugal. Je pense qu'on va faire venir Nicolas Villas ce soir là, qui nous raconte, parce que les Portugais prévoient de reprendre aussi fin mai. Sauf qu'aujourd'hui, 3 joueurs de Guimarães ont été testés positifs au coronavirus. Au Portugal, les clubs ont repris les entraînements individuels pour préparer une reprise prévue. Donc, je l'ai dit, j'ai dit fin mai. Alors, c'est des joueurs qui sont asymptomatiques, qui ont été mis en quarantaine. Donc, on va voir ce que vont faire les Portugais. Et puis, en Espagne, 5 joueurs positifs, on l'a appris aujourd'hui. Alors là, la Liga ne communique pas ni l'identité des joueurs, ni les clubs. Les clubs... après le font éventuellement, parce que l'Atlético l'a fait concernant un de ses joueurs. Une nouvelle fois, la Liga n'a pas encore de date précise. On parle du 20 juin. Ça c'est l'entraîneur de Leganés, Aguirre, qui a dit ça aujourd'hui. Un retour à la compétition possible le 20 juin en Espagne, mais enfin on n'abandonne pas l'idée de le faire quoi qu'il arrive. Dis-moi Julien, une autre info anglaise là qui nous est arrivée. Patrice Evra a parlé, dis donc. Le podcast officiel de Manchester United. Et il a dit, Evra, je veux devenir entraîneur n'importe où. Je suis prêt à aller n'importe où.
C'est ça, effectivement. Alors, il faut se rappeler qu'il a quand même, il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Il a notamment fait déjà un ou deux stages, je crois, avec les moins de 19 ans de Manchester United, parmi lesquels ils ont d'ailleurs quelques joueurs français comme Hannibal Mejri. Et c'est vrai qu'il est en train de faire ses classes d'entraîneur. Alors après, je sais pas. Pour l'instant, on va pas raconter un petit peu ses séances ou ses causeries ou ce genre de choses-là.
Il veut prendre Jérôme Rotten comme adjoint.
Alors ça, ce serait explosif. Je pense que explosif, c'est le bon mot. Si on avait un duo Evra et Rotten. D'ailleurs, chez Rotten, vendredi, on a fait d'ailleurs la carrière de Patrice Evra. On lui a rendu hommage. Je sais pas s'il a écouté, mais c'était très sympa. Mais oui, je l'avais vu. C'est marrant que tu me dises ça. Je l'avais vu lors de son premier passage avec les moins de 19 ans de Manchester United. J'étais à Manchester pour une interview avec Solskjaer. Il était là aussi. On a parlé un petit peu. Il avait l'air très motivé, très excité. Il avait visiblement l'air assez convaincu qu'il était fait pour ça, donc on lui souhaite bonne chance, mais il a eu quand même des entraîneurs.
Je suis pas vraiment sûr.
Non, peut-être pas, mais en tout cas lui, il était convaincu. Tu sais, il a eu des entraîneurs qui, en tout cas.
Déjà, il a eu des coachs, mais il a toujours fédéré. Alors, bien ou pas bien, j'en sais rien, hein, mais ça, c'est à chacun à son avis.
Ah oui, non, celui-là, il peut être le mec un peu meneur d'homme, mais ça dure pas super longtemps, ce genre de méthode-là. Juste en étant meneur d'homme, à un moment, il faut aussi un peu de réflexion.
Moi, tu sais, pour ça, faut jamais se positionner trop tôt.
De toute façon, les
t'as des gars, tu te dis, ça va être un super coach, puis en fait, il fait rien.
Et puis surtout, avoir un énorme palmarès ne garantit pas d'être un grand coach. On a mille exemples au contraire.
Reste à savoir comment il va s'entourer aussi.
Bah, on te dit, Jérôme, peut-être.
Et coach Courbis comme conseiller aussi.
Voilà, en communication.
Ah ben non, mais là, s'il prend tous les mecs qu'il a allumés, les bras. Luis Fernandel, Roland Tournevis et c'était quoi encore? Christophe Duharig. Donc, ça peut faire une belle équipe. Hein. Vraiment un beau staff.
Bon. Ça peut être pas mal.
Ça peut être explosif. À suivre, donc, pour Patrice Evra. On lui souhaite une grande carrière d'entraîneur, bien sûr. Alors, autre info, parce que vous savez qu'on a relayé depuis quelques semaines toutes les baisses de salaire des joueurs en Espagne. Le AS fait savoir que le Real pourrait décider de pratiquer une baisse annuelle de 30% des salaires des joueurs, entraîneurs et dirigeants la saison prochaine. Il y a déjà une baisse de l'ordre de 10 à 20% qui a été décidée au début du mois d'avril, rappelez-vous, quand le Barça, lui, avait décidé de plus, baisse. Je crois que c'est 30% de mémoire au Barça. Et là, donc, le Real, quand même, envisage des pertes conséquentes. Le scénario le plus optimiste, on parle de 165 millions d'euros de pertes. Scénario optimiste, Il faut savoir quand même que la masse salariale du Real, c'est 283 millions d'euros par an. Mm-hmm. C'est quand même un truc.
Ça me laisse un peu perplexe quand même, parce que ces clubs-là qui ont offert certes des très gros salaires, j'aimerais être une petite souris et être vraiment dans les bilans et dans les comptes pour savoir la part du vrai et du faux sur le réel impact de la crise et sur ce qui va plutôt servir pour faire peut-être baisser effectivement des salaires. Alors que les salaires baissent après tout dans le futur, dans le foot, surtout dans ces clubs-là, pour ce que les joueurs touche comme salaire, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en sortira, il n'y a pas de souci. Et ce serait peut-être normal. Mais je suis quand même très perplexe sur la véracité de l'impact de la crise et si on va pas s'en servir un petit peu comme alibi quand même.
Ah, t'as raison.
Ah, mais il paraît que dans le monde nouveau, il faut baisser tous les salaires.
Ouais, bah, pourquoi pas.
Mais alors, c'est la fin de la vérité
à ce moment-là. Disons la vérité. Ne prétextons pas une crise sanitaire ou un impact d'une crise sanitaire.
Le plus gros salaire du Bayern, du Real, c'est Bale, 14 millions. Mm-hmm.
Bon, ils lui ont donné un contrat, il a forcé personne. Hein.
Voilà, c'est Neymar, c'est gros.
C'est leur gestion. Hein.
Neymar, c'est un peu plus, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Bon, franchement, Neymar, au-dessus de 10 millions, je compte plus.
Plus que ça même.
T'aurais au-dessus de 10 millions, Daniel, tu continueras à compter, hein, t'inquiète pas.
Non, mais en fait, moi, tu sais... Attends.
Mais vraiment, tu gagnes au-dessus de 10, tu comptes?
Non, mais attendez.
Bien sûr.
On n'est pas dans cette sphère-là, mais écoute ça. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui fait de la gestion de patrimoine pour des footballeurs. Il m'a dit, mais vous savez, les gars, il y a un truc que vous comprenez pas. C'est que quand tu gagnes, prenons 10 millions, ben en fait, t'as les investissements et le train de vie d'un mec de 10 millions.
Non, mais ça, t'inquiète pas, je l'ai compris, ça.
Tu vois?
Donc, on me l'a souvent expliqué, je l'ai compris.
Quand tu rembourses ton petit remboursement de ton appart à 1 euro par mois, lui, il rembourse 3 millions.
Oui, c'est de la proportion. Ouais, non, mais ça, j'avais compris. J'ai beaucoup parlé. Ouais, non, mais ça, je sais, ça.
Donc, et si tu le fais pas, tu perds beaucoup d'argent. Donc, t'es quasiment oublié. Enfin, en tout cas, c'est intelligent d'investir. Sinon, on te le reproche. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer. Alors, on va pas pleurer. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Tout va bien. Mais j'ai expliqué qu'à un moment donné, de dire bah, les joueurs sont plus payés pendant 4 mois et puis c'est très bien, ça reste quelque chose de compliqué à faire. Tu peux pas le faire comme ça à un moment donné.
Oui, puis t'as la législation du travail, il faut quand même le rappeler. Hein,
ouais, et puis ça se prévoit à un moment donné de plus être payé pendant 4 ou 5 mois. Ça se prévoit. Comme à la fin d'une carrière, d'ailleurs, des joueurs prévoient la fin de leur carrière 2 ou 3 ans à l'avance. Alors maintenant, l'impôt, par exemple, en France, est prélevé à la source, donc ça va. Mais fut une époque pas si lointaine où quand t'avais encore ton impôt à payer la dernière année, t'avais juste un petit peu intérêt à prévoir quand t'avais un énorme impôt qui tombait et que tes salaires s'arrêtaient. Ça, c'est de la gestion de patrimoine, effectivement, et ne plus être payé pendant 4, 5 mois ou 6 mois, même si ça paraît peut-être pas impossible avec certains salaires, ça se prévoit, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, en 10 jours, allez, on décide, donc on ne paye plus les joueurs.
Dans quelques instants, les chapeaux, messieurs, dames, Julien reste avec nous, bien sûr, et vous tous au 32-16, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer également les messages sur Direct Studio. À tout de suite pour les chapeaux.
RMC, l'After Foot.